Ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir
ainsi. Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Épelleboin. Bonjour Fabrice Épelleboin.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Fabrice Épelleboin, comment vous vous présentez ? Comme un activiste, un spécialiste des réseaux sociaux, d'Internet, un hacker ?
Un activiste à la retraite, ça fait longtemps que je ne pratique plus.
Ouais.
J'enseigne, je suis enseignant depuis plus de 10 ans, j'ai commencé ma petite carrière d'enseignant au CELSA pour ensuite très rapidement basculer à Sciences Po. Je suis entrepreneur, j'ai monté des entreprises depuis que je suis dans la vie active, une multitude essentiellement des startups.
Ouais.
Et puis c'est bien déjà, ça fait déjà une vie bien remplie.
Et hacker, non ?
Alors hacker, oui et non. J'ai été élevé par un hacker, donc j'ai hérité quelque part du titre.
Ça veut dire quoi ?
Hacker, si on prend la définition la plus basique, c'est quelqu'un qui prend plaisir à contourner une contrainte de façon intellectuelle et créative. Et le territoire de prédilection des hackers, c'est évidemment l'informatique. Mais c'est un savoir-faire qui peut s'appliquer à tout et n'importe quoi. Il y a un site très célèbre, par exemple, qui consiste à prendre du mobilier IKEA et à le monter de façon à faire autre chose. C'est typiquement la démarche d'un hacker. Vous allez prendre une armoire, vous allez faire une chaise ou toute autre chose, parce que finalement, IKEA vous donne un kit et vous allez détourner ce kit. Et ce savoir-faire de hacker, vous pouvez l'appliquer aussi bien au mobilier IKEA qu'à absolument n'importe quoi. Moi, j'ai appris à l'appliquer aux réseaux sociaux.
D'accord.
Et à la façon d'utiliser les réseaux sociaux, et ce, très très rapidement. J'ai été assez fasciné par cet outil quand il est arrivé aux alentours du Web 2, 2005-2006, et puis très concrètement avec Facebook, qui a été la troisième itération d'une proposition de système à grande échelle de réseau social. Et ces systèmes-là m'ont absolument fasciné, la rencontre de la technologie et de la sociologie. Et j'ai commencé à appliquer une démarche de hacker aux réseaux sociaux.
Alors Fabrice Épelleboin, vous avez choisi comme journée particulière le 14 mai 2010. Ce jour-là, pour la première fois, vous avez découvert une intervention masquée d'un État sur les réseaux sociaux et plus précisément une intervention cachée du dictateur tunisien Ben Ali sur les réseaux sociaux. C'est bien ça, ouais. Alors d'habitude, Fabrice, on commence l'émission avec une archive INA. Évidemment, impossible de trouver un son qui parle de cette manipulation des réseaux sociaux. On a donc décidé de rappeler la nature du régime de Ben Ali.
Ben Ali a deux têtes. L'une, c'est le flingue et l'autre, c'est la propagande. Depuis son ascension, il n'y a plus de journalisme, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de roman. Pratiquement, l'âme tunisienne s'est brisée sur un récif d'acier.
Bon, alors c'est Taoufik Ben Brik qu'on vient d'entendre. En mai 2010, l'année et le mois que vous avez choisi, Fabrice Épelleboin, il faut tout de suite dire, pour qu'on comprenne ce dont vous allez nous parler, c'est l'importance de Facebook, justement, dans cette dictature. Comment ça a été une soupape, un lieu de liberté d'expression, Facebook en Tunisie?
Ben Ali avait vraiment éradiquer la vie sociale du pays qui se vivait dans un climat d'oppression et d'auto-surveillance et de surveillance des uns des autres permanents, un climat très très oppressant. Et Facebook est arrivé là-dedans en offrant aux Tunisiens la possibilité d'avoir des pseudonymes et donc de rentrer dans un espace, de profiter de la liberté d'expression et de ne pas être sous ce regard permanent du pouvoir. Et ça a été une libération pour les Tunisiens et une reconstruction de la société. La vie culturelle a explosé grâce à Facebook. La vie amoureuse des jeunes Tunisiens a explosé grâce à Facebook. Facebook a vraiment été un facteur de libération sexuelle en Tunisie. On a du mal à imaginer à quel point cet outil a été un espace de liberté fantastique dès son apparition dans l'Internet tunisien. Et précisons que la Tunisie a été le premier pays d'Afrique à se connecter à Internet.
Alors, qu'est-ce qui se passe en mai 2010 et autour du 20 mai, 24 mai 2010, Fabrice Eppelboin? Vous êtes là, à ce moment-là, vous êtes rédacteur en chef d'un blog consacré aux technologies du web et à leur incidence sur leur impact sur la société. Et vous recevez un article qui vous alerte sur la disparition d'un bon nombre de profils sur Facebook. Ça commence comme ça.
Ça commence comme ça. Ça commence par moi, rédacteur chef d'un gros blog qui faisait plus d'un million de visiteurs par mois, donc volume assez conséquent, qui commence à m'attaquer dans un premier temps à une lecture sociétale et politique des technologies, et qui ensuite étend ce blog à la francophonie. Donc je cherche des correspondants, tout ça se fait sur le modèle du bénévolat, un peu partout, essentiellement en Afrique, et je commence à me constituer un petit réseau de gens qui apprécient ce que je fais et qui veulent aussi donner un regard sur leur pays à travers les technologies. Et j'ai tissé comme ça des relations aussi bien au Maroc, en Tunisie, au Cameroun, au Sénégal, de gens qui me remontaient des articles pour m'expliquer comment ça se passait chez eux. Et l'une de mes correspondantes, si on peut appeler ça ainsi, au Maroc, un jour me passe un papier me décrivant dans l'Internet tunisien, qui est donc là, quasiment la porte à côté, des modalités mises en place par des islamistes consistant à faire sur des pages Facebook des listes de personnes qui sont, selon leur analyse, impropres à l'islam et appelant les fans de la page à dénoncer ces profils comme étant des faux.
Alors ça veut dire que c'est des listes comme ça de noms de gens qui sont quoi? Laïcs,
qui sont
pour un islam modéré,
laïcs, trop démocrates, trop de décolleté pour les filles. Il y a une multitude de raisons qui poussent un fanatique à dénoncer les autres comme étant impurs. Et là, toutes les raisons étaient bonnes pour faire des listes et appeler une quantité impressionnante de fans de la page à consulter les profils sur ces listes et signaler à Facebook que ces profils étaient des faux. Comme tous les Tunisiens étaient sous une fausse identité, Facebook demandait à ces Tunisiens la preuve de leur véritable identité. Évidemment, ils ont été bien incapables de les fournir et du coup, les profils étaient désactivés. Et donc, cette page, dirigée par des islamistes, avait une capacité à éliminer de la vie sociale tunisienne, vu que tout se passait sur Facebook. Absolument, tout le monde et n'importe qui était très efficace et très redouté.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à enquêter pour essayer de comprendre qui sont ces islamistes? Comment?
Pas du tout.
Comment
vous y prenez, Fabrice Eppelboin? Je publie l'article de ma correspondance au Maroc et je m'aperçois immédiatement que j'ai énormément de lecteurs en Tunisie parce que les commentaires arrivent à un rythme absolument frénétique de Tunisiens qui effectivement viennent témoigner qu'il y a un problème et que cette page leur pose un problème catastrophique parce qu'ils ont fait un premier profil qui a été éliminé, un deuxième, un troisième, et reconstituer un profil Facebook, c'est quelque chose de très très long. Il faut remettre en place ses connexions, il faut, dans le cas de figure, prouver qu'on est bien la personne qu'on prétend être parce que tout le monde est sous pseudonymat. Et puis au bout d'une plusieurs dizaines de commentaires, je vois apparaître un commentaire d'une personne qui se revendique comme islamiste, qui justifie les pratiques qui sont dénoncées dans l'article, et qui est identifié par les autres commentateurs de la page comme étant le fameux administrateur de la page
des islamistes.
Donc je regarde la chose d'un peu plus près, et je m'aperçois que l'adresse IP qui correspond à cet individu...
C'est quoi une adresse IP?
Une adresse IP, c'est ce qui permet d'identifier un ordinateur, enfin une connexion Internet particulière. C'est ce que traque par exemple la fameuse Adopi pour repérer qui télécharge des contenus copyrightés. Et là, je m'aperçois que son adresse IP émane de Auckland, aux États-Unis. Donc, j'engage la conversation avec lui dans les commentaires du blog. Et je lui dis, c'est bien gentil d'être pour la censure, mais concrètement, quand on habite aux États-Unis et qu'on vit à Auckland, on n'en est pas trop victime. Là, la personne s'offusque, s'aperçoit qu'il n'a pas affaire à un journaliste, mais à quelqu'un qui comprend un peu la technologie qu'il y a derrière son blog, prend un proxy, c'est-à-dire maquille son adresse IP, revient sur le blog déposer un commentaire, sur un ton un peu provocateur, en disant « Non, tu ne trouveras pas l'adresse IP que tu as trouvée, elle n'est pas bonne. D'ailleurs, celle-là que j'utilise aujourd'hui n'est pas bonne non plus. »
Un jeu de cache-cache, quoi.
Un jeu de cache-cache, sauf que son adresse IP initiale était aisément rattachable à un réseau ADSL domestique. Et donc, j'avais très clairement l'adresse IP de son domicile personnel. Donc je lui fais comprendre que je ne suis pas dupe et que je sais très bien qu'il est localisé aux États-Unis. Et à partir de là, s'ouvre une investigation pour essayer de comprendre ce à quoi on avait fait
Alors, à quoi vous aviez affaire, Fabrice Epelboin?
Alors, on avait affaire à une entreprise qui était localisée à San Francisco, dont le patron habitait Oakland, et qui avait deux activités principales. La première, c'est ce qu'on appelle du SEO, c'est-à-dire l'art et la manière d'être bien référencé par Google. Et la deuxième, qui est beaucoup plus connue, c'est le community management, c'est-à-dire l'art de gérer des communities. Et tout ça en langue arabe. Mmh. Et son principal client, pour ne pas dire quasiment unique client, c'était l'État tunisien.
C'était Ben Ali.
Enfin, c'était le ministère de l'Intérieur tunisien. Et l'administration américaine fait qu'on peut très facilement avoir une quantité faramineuse d'informations sur un individu, une entreprise. Et l'enquête, c'est pour l'essentiel résumé à ça, avec derrière une investigation sur l'individu. Donc on a typiquement repéré... par exemple, des photos personnelles de lui, qui était en train de faire la fête, en buvant de l'alcool de façon effrénée, dans des soirées latino à Oakland, qui était parfaitement incompatible avec l'idée qu'on se fait d'un islamiste. Et donc, très rapidement, on a exposé cet individu, de façon à montrer aux Tunisiens qu'ils étaient victimes d'un coup monté. Et que, derrière tout ça, en fait, il n'y avait pas plus d'islamistes que de beurre en branche. Et que tout ça était monté par une entreprise localisée aux États-Unis, dont le client était l'État tunisien, et qui n'avait aucun rapport avec des islamistes.
Donc, que c'était une fausse opération des islamistes, et qu'il y avait derrière Ben Ali, et que tout ça, cette fatwa numérique, a été un prétexte à la chasse aux opposants.
Les gens qui étaient visés, c'était l'intelligentsia tunisienne, l'opposition tunisienne, et toute personne qui était capable de faire résonner une parole différente en Tunisie. Et absolument pas les gens impropres à l'islam.
Fabrice Epelboin, vous avez une idée de ce qu'on entendait en 2010 comme musique, d'une chanson comme ça que le monde entier a pu reprendre en 2010?
Pas vraiment, non.
Bon, alors écoutez, c'était ça.
Alors non, alors non, alors non. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise de dix mondes, dix famines, dix tiers mondes, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y en a encore.
Une journée particulière sur France Inter.
Fabrice Epelboin, vous êtes étonné, vous ne pensiez pas que Stromae, alors on danse, c'était 2010.
Non, j'aurais vraiment dit 2015-2016.
Eh ben non, c'était 2010. Alors le 14 mai 2010, c'est la journée, c'est votre journée particulière, Fabrice Epelboin. Vous êtes donc un spécialiste d'Internet et des réseaux sociaux. En 2010, vous étiez rédacteur en chef d'un blog consacré aux réseaux sociaux.
Pas que, aux technologies en l'angle de ce blog, c'était une analyse politique et sociologique des technologies. Là, je me suis toujours intéressé à la façon dont ces technologies allaient impacter la société, l'individu, la psychologie et la politique, évidemment.
Et ce jour-là, donc ce 14 mai 2010, vous découvriez donc qu'une fausse opération des islamistes sur Facebook avait servi de prétexte pour faire la chasse aux opposants du régime de Ben Ali. Et ce 14 mai 2010, Fabrice Eppelmoin, sur votre blog, vous publiez un article intitulé « Guerre civile sur Facebook », un article très intéressant que j'ai lu, dans lequel vous expliquez comment les Tunisiens harcelés par ce groupe de faux islamistes ont décidé d'employer les mêmes méthodes que ces faux islamistes, ont renversé la proposition.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait détruit un mécanisme d'exclusion mis en place par le régime de Ben Ali sur Facebook. Alors d'une part, les opposants ont pu rester sur Facebook sans être obligés de sans arrêt refaire un profil et ont pu commencer à s'organiser et répliquer. Répliquer contre cet ennemi qu'ils avaient symbolisé à travers un personnage imaginaire qui s'appelait Amar 404. 404 comme l'erreur 404 d'une page non disponible qui était le code d'erreur que renvoyaient les systèmes de censure tunisiens quand on essayait d'accéder par exemple à YouTube. Et Amar qui est Paul, Jacques, qui est un nom assez courant, qui permettait en fait de ridiculiser un peu cette censure, notamment en faisant des jeux de mots entre 404, le modèle Peugeot, et 404, l'erreur Internet.
Mais vous les avez aidés à répliquer ?
Alors j'ai bien sûr aidé à répliquer, j'ai ouvert mes colonnes à plusieurs opposants tunisiens, le plus célèbre d'entre eux étant Slimane Mahmoud, le garçon qui est devenu ministre, qui a été emprisonné durant la Révolution et qui est devenu ministre au lendemain de la Révolution, mais aussi tout un tas d'autres, qui ont pu, dans les colonnes d'un blog qui était lu à l'international, exprimer leur point de vue et développer des idées vraiment très intéressantes sur la technologie et la politique. Et évidemment, la Tunisie était à l'avant-garde. À l'époque, on s'en rendait pas compte, mais elle était totalement à l'avant-garde de ces mouvements sociaux nés d'Internet.
C'est pour ça que vous parlez de guerre civile sur Facebook. Est-ce que je comprends? Et ce que je n'avais pas compris, Fabrice Eppelmoin, c'est que vous avez joué aussi un rôle dans cette guerre civile sur Facebook.
Ah ben, j'ai apporté toute l'aide que je pouvais apporter à des gens, non seulement dont j'étais proche, essentiellement pour des idées comme le logiciel libre, comme tout un tas d'idéologies qui sont liées aux technologies et que je partageais avec tous ces gens. Le logiciel libre est quelque chose d'extrêmement populaire en Tunisie. C'est une certaine approche de la façon de créer des logiciels qui consiste à créer un bien commun plutôt qu'une propriété privée, ce qui est le cas de bon nombre de logiciels qu'on connaît. Microsoft, typiquement, c'est une propriété privée. Vous pouvez l'acheter en quelque sorte, même si vous n'êtes pas vraiment propriétaire, le code n'est pas à vous. Alors que si vous prenez un truc comme Linux, c'est un bien commun. Ça fait partie des idées que je défends sur Internet, c'était du bien commun, de la construction collective du bien commun. Et en Tunisie, c'est une idée qui est extrêmement populaire.
Vous avez une idée de ce que vous entendez là, Fabrice Eppelmoin ?
Des manifs.
Les manifs qui ont lieu en Tunisie, qui ont lieu à Tunis en janvier 2011, donc quelques mois après que cette guerre civile sur Facebook ait commencé. Et c'est la voix, c'est une des voix de la révolution qu'on entend, c'est Emel Matlouti, qui est devenue une des figures de la révolution, qui chante l'hymne, un des hymnes de la révolution qui est « Ma parole est libre ».
Oui, ce qui pour les Tunisiens de l'époque était un acquis incroyable, incroyable. On a toujours du mal, en tant qu'occidentaux, vivant dans des pays où la liberté d'expression, malgré tout, n'est pas si brimée que ça, d'imaginer ce que peut être la vie d'un pays qui est très éduqué, j'insiste là-dessus, il y a une quantité faramineuse d'universités en Tunisie, avec une middle class qui est vraiment très présente, et qui ne n'a pas du tout la liberté d'expression. Moi, je l'avoue humblement, jusqu'à ma rencontre avec la Tunisie, que je connaissais pas du tout avant cet épisode-là, pour moi, les pays qui étaient dans cette situation de misère absolue en matière de liberté d'expression, ça s'accompagnait d'une misère en matière d'éducation, d'une misère en matière de culture. Or, c'est pas du tout le cas de la Tunisie. C'est absolument pas le cas de la Tunisie.
C'est ce que vous avez découvert, parce que ce qu'il faut comprendre, Fabrice Eppelmoin, c'est que vous avez participé de cette guerre civile sur Facebook, mais vous n'avez pas fait que ça. Vous avez aidé les révolutionnaires, vous avez aidé la dissidence sur Internet, vous avez participé à cette révolution. Bien après mai 2010, vous avez été très actif, vous avez été un activiste.
Même après janvier, j'ai même été habité un temps en Tunisie pour essayer de voir comment je pouvais participer à la reconstruction de tout ce tissu social qui, après
vous
la révolution...
Vous y avez cru ?
J'y ai cru, et d'une certaine façon, c'est pas non plus un échec absolu, la révolution tunisienne, hein, loin de là, c'est très loin de là. C'est pas une réussite flamboyante, mais c'est pas un échec absolu. Et dès mai, effectivement, à travers les différents contacts que j'avais noués, je leur ai dit, voilà, si je peux vous être utile à quelque chose, moi, j'ai l'avantage d'être confortablement installé à Paris, donc de ne pas être dans cet état de paranoïa permanente, de me dire que du jour au lendemain, la police pouvait descendre chez moi et m'emprisonner. J'avais pas ce danger, cette épée de Damoclès sur la tête, ce qui me permettait de leur donner un feedback assez froid, d'analyse des choses, pour leur permettre à eux de prendre du recul et du coup de mieux s'organiser et de sentir qu'ils n'étaient pas seuls. Et puis j'écrivais sur la situation très régulièrement et du coup il y avait toute une communauté de lecteurs qui étaient plutôt des gens issus de logiciels libres, le milieu hacker, des gens comme ça, qui ont découvert la Tunisie à cette occasion, tissé des liens avec la Tunisie à cette occasion. D'accord. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à avoir ce groupement de hackers, les fameux Télécomics, qui ont accompagné le printemps arabe. Rappelons que c'est une organisation informelle de hackers qui sont le plus grand fait d'armes, c'est le rétablissement de la connectivité Internet en Égypte quand Moubarak a coupé Internet en Égypte, quelques mois après la révolution, un mois après la révolution tunisienne.
Steve Jobs, fondateur d'Apple et visionnaire de génie.
Ceci est une révolution. Nous l'avons appelé le iPod Touch. Juste entre le iPod Nano et le iPod Shuffle.
Un inventeur à l'imagination sans limite.
Ceci est une révolution. Nous l'avons appelé le iPad. Juste entre le iPhone et le iMac.
Mais cette fois, Steve Jobs va encore plus loin dans l'innovation.
Ceci est une révolution. Nous l'avons appelé la iBrouette. Juste entre le ISO et la iBoîte à chaussures.
Steve Jobs, il rend indispensable ce dont vous n'avez pas besoin.
Fabrice Eppelmoin, vous avez reconnu ce que je viens de vous faire entendre. Hein.
Oui, ça nous a tous beaucoup fait rire. C'est
un extrait des guignols de l'info. Et donc, en 2010, hein, Steve Jobs apparaît pour la première fois dans les guignols de l'info. Il a une marionnette, et c'est lui qu'on vient d'entendre, qui reprend quasi mot pour mot la présentation de l'iPad.
Oui.
Parce que le premier iPad sort aussi en 2010, cette même année 2010. Sur l'iPad, vous avez regardé tout ça, évidemment, de votre...
Oui, bien sûr.
Et alors, qu'est-ce que vous pensiez de tout ça ?
Je suis partagé parce qu'à la fois, Apple, aujourd'hui, est une des rares sociétés qui respecte la vie privée, essentiellement parce qu'ils font pas de business avec vos données personnelles, hein, c'est pas une question de principe. Et en même temps, c'est l'une des sociétés qui est le plus coupable de la situation d'ignorance absolue des populations et des élites vis-à-vis des technologies. Parce que Apple a inventé l'interface contemporaine, même si elle l'a piqué à droite à gauche, elle a quand même mis au point l'interface contemporaine, dans un premier temps, en 84, avec le Mac, le concept de souris, de pointeur, de dossier, de fichier, toute l'interface graphique.
Ça, c'était
graphique.
Pour nous aider.
Ça, c'était pour vous aider.
Les
mais ça crée une distance énorme entre la chose technique et vous. Et puis ensuite, avec l'iPhone, l'iPad, avec des interfaces encore plus intuitives qui mettaient encore plus à distance la chose technique. Moi, j'ai appris l'ordinateur bien avant l'arrivée de ces interfaces. À une époque, on s'adressait aux ordinateurs avec une ligne de commande. Et je me souviens très bien qu'on avait 12, 13 ans. Le simple fait de pouvoir parler, en quelque sorte, avec un ordinateur dans une ligne de commande, dans un truc complètement cryptique, faisait de vous un petit génie.
Il suffisait de
vraiment pas grand-chose pour
J'ai un frère comme ça.
Puis tout d'un coup, le Macintosh est arrivé et ma mère a été capable d'utiliser un ordinateur. C'était pour des gens comme moi qui étaient un an auparavant des petits génies, quelque chose de terriblement angoissant.
Pourquoi? Parce que justement, on voyait le petit dossier.
Parce qu'elle était capable d'ouvrir un dossier, d'ouvrir un fichier, ce qui demandait deux lignes de commande sur un MS-DOS. Et ces deux lignes de commande, aussi bêtes soient-elles, faisait de vous un petit génie à l'époque, alors que double-cliquer sur une icône ne faisait pas du tout de vous un petit génie. Donc on avait tout d'un coup extrêmement simplifié l'ordinateur, mais créé une distance phénoménale entre la chose technique et l'être humain, et créé des métaphores, la souris, le dossier, qui n'avaient aucun rapport, ou un rapport très lointain avec la réalité technique des choses, et petit à petit, les utilisateurs de la chose technique se sont éloignés de la chose technique, et il y a eu une grosse incompréhension, un énorme hiatus qui s'est creusé entre la chose technique et l'utilisateur.
C'est pour ça que vous nous comparez aux Grecs de l'Antiquité.
Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les utilisateurs des technologies, c'est-à-dire tout le monde, aujourd'hui sont comme des prisonniers dans une caverne qui regardent des ombres et qui s'extrapolent des mondes imaginaires à partir des ombres qui sont elles-mêmes projetées souvent par des gens qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe.
Et c'est ça justement que vous enseignez à Sciences Po depuis une dizaine d'années, c'est de nous faire sortir de la caverne.
J'ai un objectif pédagogique qui consiste à vous faire sortir de la caverne. Et je mets en garde mes élèves dès le début des cours que une fois qu'ils seront sortis de la caverne, le monde à l'extérieur est particulièrement dark et obscur et très inquiétant. C'est le monde de la surveillance, c'est le monde de la manipulation, c'est le monde du renouveau de la propagande, c'est le monde de la transformation fondamentale de nos sociétés par la technologie, c'est le monde du progrès qui est sur une courbe exponentielle et qui va rentrer dans le lard des progressistes qui, eux, se reposent sur une philosophie politique, le progressisme, inventé il y a plus de deux siècles, qui part du principe que le progrès sert l'humanité et, d'autre part, est linéaire. Or, le progrès n'est pas linéaire, le progrès est exponentiel. Et on s'en aperçoit depuis quelques décennies. Aujourd'hui, les progressistes sont totalement dépassés par le progrès. C'est ce que nous a montré l'affaire du Brexit, Donald Trump, tous ces trucs-là, qui montrent que, très clairement, le progressisme a fait une erreur de base, qui est de penser que le progrès était non seulement au service de l'humanité, mais linéaire.
Ceci est une révolution.
Je suis l'homme de l'an 2000. Je suis sans problème, ma vie est facile. Je ne pense plus du tout. Nous avons un roi qui pense pour nous, c'est... L'ordinateur. Je suis l'homme qui n'a plus faim. Je ne comprends pas pourquoi les anciens avaient tant de plaisir à manger. J'avale des pilules qui sont fabriquées par... L'ordinateur. Quand je vais me promener, je ne vais jamais au hasard. J'ai une voiture téléguidée. L'itinéraire est fait avant mon départ par... L'ordinateur. Pour les filles, pas de problème. Je ne perds pas mon temps à leur dire je t'aime. Tous les soirs, je dois aller chercher une fille qui chaque fois est sélectionnée par... L'ordinateur. Quand je pense aux arriérés qui ne pouvaient pas vivre sans amour, je vous dis qu'on est mieux de nos jours. Pour l'homme de l'an 2000, le bonheur parfait, c'est... L'ordinateur. Nous sommes tous conditionnés à leur abat des cartes et la pensée. Nous vivons l'âge d'or, je vous le dis. Moi, je ne pense plus, donc je suis vide. L'ordinateur. 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 L'ordinateur.
Fabrice Eppelmoin, vous avez une idée de ce que vous venez d'entendre? Qu'est-ce que c'est?
Absolument aucune.
Ça date de quand? Aucune.
Oh, ça peut pas dater des années 70 par ou si?
68.
68.
Ouais.
Génial.
Et qui chante?
Qu'est-ce qui peut chanter?
Il chantait Syracuse.
Là, j'ai un trou.
Henri Salvador.
Ah, merde. Ah, oui.
C'est Henri Salvador qui chantait cette chanson-là en 1968. C'est une trouvaille de notre programmateur musical, Djoubaka. Pas mal, non? Ça va bien avec ce que vous décriviez
ça
juste avant.
Ça fait des belles archives. Aussi vieille. Hein.
Ouais.
C'est fascinant.
Fascinant. Jusqu'à 15h, on continue avec vous, Fabrice Eppelmoin. C'est votre journée particulière, le 14 mai 2010. Vous comprenez comment le dictateur tunisien Ben Ali manipule Facebook pour faire la chasse aux opposants du régime. Et une intervention masquée d'un État sur les réseaux sociaux afin de manipuler l'opinion, ça a un nom que je ne connaissais pas avant de vous rencontrer.
C'est l'astroturfing.
L'astroturfing.
Très rapidement, le but de l'astroturfing, c'est de simuler un mouvement qui est par la base.
Donc astroturfing, ça veut dire une technique qui permet de simuler l'activité d'une foule sur un réseau social.
Tout à fait, ou de fausser une impression que donnerait la société dans ses réseaux sociaux, ou même ailleurs, en dehors des réseaux sociaux. On a un exemple, par exemple, Nixon avait à la Maison-Blanche des rédacteurs qui écrivaient du courrier des lecteurs pour les grands médias américains, chantant les louanges de la politique de Richard Nixon.
Il y avait la même chose dans la Pravda.
Il y avait la même chose dans la Pravda, il y avait la même chose dans Brutus de William Shakespeare. Vous avez Brutus qui se fait expédier des fausses lettres de citoyens romains par Cassius, l'incitant à participer au coup d'État contre César. C'est de l'astroturfing. Donner l'impression que les citoyens romains sont pour un coup d'État contre César à travers des fausses lettres de faux citoyens romains.
Et impossible de parler de l'astroturfing sans parler des élections qui ont eu lieu en Corée du Sud en 2012. C'est ça?
Tout à fait. En 2012, l'élection coréenne, Corée du Sud bien sûr, voit la candidate Park Sang-woo, si mes souvenirs sont bons, mais j'ai peur d'écorcher son nom, se représenter. C'est la candidate, on va dire, du camp conservateur, face à un camp progressiste, qui voit dans les 15 derniers jours de la campagne présidentielle, une campagne de diffamation phénoménale sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, mais pas que, le traitant de tous les noms, l'assimilant à la Corée du Nord, enfin, et ça détruit sa candidature. Et puis, quelques semaines après la réélection, on s'aperçoit que, en fait, les services secrets coréens ont mis en scène toute une opération d'astroturfing de façon à discréditer le candidat de l'opposition. S'en est suivi un nombre de manifestations
absolument. Ça a mis quelques années avant que les gens se rendent compte de la manipulation, que les électeurs se rendent compte de la manipulation, non?
Sur place, non, ça a été assez rapide. Ça a mis quelques années avant qu'ils obtiennent la destitution de la présidente et le territoire politique de Corée du Sud a été radicalement changé. Le territoire médiatique a été totalement éradiqué. Aujourd'hui, les médias n'ont plus grand rôle démocratique en Corée du Sud. C'est des médias collaboratifs faits par des citoyens qui ont pris le relais, qui font les grandes investigations politiques et qui obtiennent des démissions de ministres, donc qui ont un vrai pouvoir politique. Et ça a complètement redessiné le territoire médiatique de Corée du Sud. Mais surtout, ça date de façon absolument réfutable l'arrivée de l'astroturfing dans le champ politique des démocraties.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu Ben Ali, 2010,
et là,
qui n'était pas une démocratie, vous avez raison, et en Corée du Sud, pour les démocraties, en 2012. Mmh. Et alors, pour moi, qui suis non comprenante, pour moi, l'astroturfing, un exemple qui est un exemple d'actualité, pour moi, c'est le Brexit.
Une explosion de joie au beau milieu de la nuit, et un séisme en Europe. Le Royaume-Uni vote sa sortie de l'Union européenne. 51,9% pour, 48,1% contre. Les Britanniques viennent de tourner le dos à l'Europe. L'europhobe Nigel Farage jubile.
Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant. C'est une victoire pour les gens normaux. Les gens honnêtes, c'est une victoire contre les grosses banques, le gros business, contre la grosse politique. L'Union européenne tombe, l'Union européenne meurt, j'espère que nous ne sommes que les premiers à faire tomber les murs.
C'était une archive du lendemain du référendum, des résultats du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Comment ça s'est passé pour le Brexit ?
Pour simplifier un peu les choses, il y a eu deux opérations parallèles, pas forcément coordonnées, on ne sait pas très bien à ce stade. D'une part, une opération qui a consisté à diviser l'opinion publique en petits morceaux. C'est ce qui est merveilleusement symbolisé par les fameuses usines à trolls russes, c'est-à-dire vous allez vous insérer dans des communautés, les radicaliser les unes après les autres et les pousser à la confrontation les unes avec les autres. Et vous faites ça dans toutes les communautés. Ça peut se faire aussi bien avec des communautés très politisées qu'avec les véganes, les féministes. C'est assez facile de s'insérer dans ces communautés, de créer un personnage qui va vraiment nouer des ramifications et des solidarités au sein de la communauté, puis de la faire dériver. Et puis, à côté de ça, il y a l'affaire Cambridge Analytica, qui consiste à analyser la psychologie de tout un chacun à travers les traces numériques qu'il a sur Facebook et à lui fournir un message qui va être totalement individualisé sur sa psychologie, avec pour but soit de le faire basculer dans le camp de l'abstention, si on a affaire à un opposant politique, parce qu'on peut pas non plus le reconvertir, vous ferez jamais avec ça, quelqu'un de droite va pas voter à gauche avec ces technologies-là, mais vous allez pouvoir le pousser à l'abstention, ou pour des électeurs qui étaient assez indécis, mais pas très loin de voter pour le Brexit, de le pousser au vote.
Et alors, qui a manipulé ? Qui voulait qu'on vote massivement pour le Brexit ?
Alors, à la base, c'est terrible à dire, mais le Brexit était une forme de démonstration d'avant-vente pour la campagne de Trump.
D'avant-vente.
Dans un premier temps, Trump, on lui expose la technologie Cambridge Analytica, il n'y croit pas, il trouve que ça, c'est trop beau pour être vrai, et on lui fait une démonstration à travers le Brexit que ça marche, il est convaincu, et il adopte la technologie pour sa campagne.
Et donc le Brexit a servi à ça ?
Le Brexit a servi à ça.
Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire ?
C'est terrifiant, hein ?
Et c'est le Brexit qui nous a ouvert les yeux sur ces manipulations ? C'est le Brexit et l'élection de Trump ?
Non, pas vraiment. Le Brexit et l'affaire Cambridge Analytica étaient très mal comprises en France, très mal analysées. Et c'est très compliqué d'aborder ce problème-là dans la presse. D'abord parce que technologiquement, c'est d'une complexité inouïe. Mais surtout parce que la France, quelques mois avant l'accession de Donald Trump à la présidence américaine, a adopté les technologies Palantir. Et donc
quoi Palantir ?
Palantir, c'est... on va dire le système d'exploitation de Big Brother, parce qu'à la base de la surveillance, vous récoltez des données brutes dans une quantité invraisemblable, vous pouvez rien en faire tel quel, il vous faut des outils d'analyse et des outils qui permettent de faire sens de toutes ces données que vous surveillez. Palantir sait faire ça et c'est la seule entreprise dans le monde qui sait faire ça.
Mais alors Fabrice Pellemoin, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est un cauchemar ? C'est la fin de la démocratie ?
Oui. Ce que montre Palantir, c'est la fin du libre-arbitre. À partir du moment où j'ai cette connexion avec vous à travers ces outils comme Facebook, que je peux alimenter votre flux d'informations et l'orienter, je peux me saisir de votre libre-arbitre. Alors pas 100% de la population, hein, loin de là. Mais dans une démocratie, il suffit que je prenne le libre-arbitre de 5% de la population pour contrôler complètement la démocratie. Et on est avec Palantir et avec l'affaire Cambridge Analytica face à la fin du libre-arbitre.
Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer, parce que de la manipulation, il y en a toujours eu, Fabrice Pellemoin. Il y en a eu aussi dans les médias traditionnels, vous parliez tout à l'heure avec Nixon, et moi j'en parlais avec la Pravda. Mais la différence, c'est une différence d'échelle, c'est-à-dire entre la manipulation des médias traditionnels et la manipulation des réseaux sociaux, c'est quoi ?
Ben c'est l'échelle. C'est le fait que si j'ai la Pravda, on est dans une logique de médias de masse. C'est-à-dire qu'on va donner une vérité, celle de la Pravda, à des millions de personnes. Avec Palantir, on donne à chacun sa vérité. Et la vérité qui lui fait plaisir et qui va être la vérité qui va le faire basculer dans là où on veut qu'il bascule. Donc c'est infiniment plus fin et plus granulaire et c'est infiniment plus puissant. Parce que la Pravda est obligée de trouver une vérité qui convient à peu près à tout le monde, qui convient le plus grand nombre. Alors que là, je peux vraiment trouver la vérité la plus idiote qui soit du moment qu'elle convainc une personne en particulier. Et ensuite, je vais trouver une autre vérité qui convainc le voisin. J'ai absolument pas besoin d'avoir une vérité universelle et donc du coup, je peux avoir un effet beaucoup plus massif.
Fabrice Pellemoin, on parle de manipulation des réseaux sociaux depuis le début de cette émission. Et évidemment, je me demande si les gilets jaunes sont manipulés. Est-ce que vous pensez qu'il y a manipulation ?
À ce jour, on n'a pas trouvé de manipulation. Des micro-tentatives, mais qui n'ont absolument aucune possibilité d'impact. Non, à ce jour, les gilets jaunes, c'est juste la résultante d'un changement d'algorithme de Facebook qui, tout d'un coup, a fait résonner de façon disproportionnée des colères qui étaient là, qui étaient légitimes, mais qui ne prenaient pas une telle ampleur. Et à partir de là, il y a eu un phénomène de boule de neige propre aux réseaux sociaux, hein, qu'on appréhende en marketing. marketing sur le terme de buzz et qui ont fait que ce phénomène est devenu hyper visible de plus en plus de monde sur Facebook qui se sont fédérés, qui se sont organisés, qui ont commencé à envisager des modalités d'action et ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme gilet jaune.
Mais parler comme ça dans ces termes-là des gilets jaunes, est-ce que c'est pas une manière de ne pas prendre en compte la colère ?
Non, pas du tout. La colère des gilets jaunes aurait été parfaitement invisible et était parfaitement invisible depuis de nombreuses années sans Facebook. Je pense que c'est tant mieux pour eux que leur colère à eux ait pu résonner à l'occasion d'un changement d'algorithmie. Ça pose réellement la question du rapport entre l'homme et l'algorithme, mais c'est une bonne occasion de s'interroger.
Voilà, c'est le bordel sur Bastille. Les Black Blocs sont attaqués. Veuillez partager, les amis, j'ai oublié de partager. Donc là, vous avez les Black Blocs qui attaquent la police. Pourquoi ils font ça, putain? Ils nous niquent
tout. Ça se passait bien.
Ça se passait terriblement bien, quoi. Okay. Faut partir, faut partir. Là, les jaunes,
ça charge, ça charge.
Faut que les jaunes y partent, faut que les jaunes y partent.
Et Jérôme, fais gaffe, t'as le canon en haut derrière.
C'est ça la réponse.
Qu'est-ce que vous dites, Fabrice Appelboin ?
Il vise les yeux, c'est clair. Ça ressemble énormément à des archives de guerre, pas tout à fait, mais la différence avec des extraits sonores qu'on peut trouver sur des fronts de guerre, c'est qu'effectivement, les gens n'ont pas l'air aussi paniqués. C'est
alors,
très angoissant.
Vous avez reconnu, et je pense que tous les auditeurs l'ont reconnu aussi, parce que c'est le son de la vidéo qui a été postée sur Facebook samedi dernier par Jérôme Rodriguez, donc un des leaders, enfin je ne sais pas s'il faut dire leader avec 15 guillemets des gilets jaunes.
Non, il ne faut pas dire leader. C'est la nature de ces mouvements est de ne pas avoir de leader.
Voilà.
C'est les médias typiquement qui veulent trouver des représentants, des porte-paroles, parce que c'est leur interface naturelle, et qui donc à défaut de comprendre la nature leaderless de ce mouvement, vont aller trouver et autoproclamer des leaders. Évidemment, jouant sur le fait que s'autoproclamer leader en ce moment, c'est très à la mode, hein, pas qu'au Venezuela.
Ça, c'est une vidéo qui a été vue par plus de 2 millions de personnes. Ce sont les gilets jaunes qui, en premier, ont parlé des violences policières sur les réseaux sociaux.
C'est des journalistes à cheval sur le journalisme et l'ONG qui ont documenté de façon extrêmement précise et avec un vrai travail de documentation aussi bien journalistique que juridique. De tout ça, depuis le début du mouvement, parce que les premiers incidents dramatiques datent du 1er décembre, je crois bien. Dramatique au sens, je crois que le 1er décembre, on a la première personne qui perd une main. Suite à une grenade lancée dans une foule dans laquelle il y avait des enfants. Donc on a déjà des choses qui sont très inquiétantes et qui auraient dû inquiéter la presse. Et puis on a ce silence assourdissant qui a duré près de 4 semaines dans les médias et qui, moi, a résonné avec le silence assourdissant qui a résonné dans les médias lors de la révolution tunisienne. Les médias français n'ont absolument pas parlé de la révolution tunisienne jusqu'au dernier jour, tout dernier jour. Et jusque-là, c'était silence radio.
Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted. To the blue. Tiptoes, oh, watch me shoot it.
my own world. I'm here for the fun. No matter where I start, I know very well where the sun's. But when I'm up close, it's too late to turn back. Well, just like a book, I'm a traitor to the late. I'm a traitor to the late. I'm a traitor to the burn. Just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Fabrice Eppelbois, on est dans la dernière partie de cette émission. Je vais reprendre quelques-uns des événements qui se sont passés en 2010. Vous intervenez quand vous voulez, si vous avez un mot à dire. Début janvier 2010, le journal Le Parisien révèle que Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, cherche à revendre à l'étranger une partie des doses de vaccins anti-grippe H1N1 qui n'ont pas été utilisées lors de l'opération de vaccination générale.
Je pense qu'on aurait pu s'apercevoir du problème des fake news à cette occasion. On a perdu beaucoup de temps.
Vous pensez que c'est une fake news?
Non. Il y a eu effervescence de fake news autour de cette affaire de vaccin qui partait dans tous les sens. Et ça aurait été une occasion de saisir du problème des fake news et d'aller au-delà. Parce que les fake news, c'est vraiment l'arbre qui cache une forêt. C'est un faux problème, les fake news. Le problème, encore une fois, est dans le déplacement d'influence des contenus vers la distribution. C'est beaucoup plus important que les fake news qui sont un épiphénomène autour de tout ça.
Toujours en janvier 2010, la plus haute tour du monde est inaugurée à Dubaï, alors que Haïti, c'est le même mois, est ravagé par un séisme de magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Je trouvais que...
C'est une belle métaphore du monde contemporain.
Au mois de mars 2010, le chanteur Jean Ferrat disparaît. Il a bercé votre enfance.
Non, plus celle de ma mère, honnêtement.
Les grèves contre la réforme des retraites commencent, il y en aura tout au long de l'année 2010. Ça peut résonner avec peut-être ce qui se passera cette année. Nicolas Hulot, en 2010, quittait le Grenelle de l'environnement.
Déjà.
Et alors, tout au long de l'année 2010, la nature se rappelle à nous. Il y a le volcan, du glacier Eyjafjallajökull.
Pas facile
à dire, qui fait éruption en Islande et qui provoque l'interruption, la paralysie du trafic aérien. Et il y a un iceberg géant de 260 km² qui se détache du Groenland. Vous vous rappelez de tout ça?
Je me rappelle tout à fait de tout ça. On a deux phénomènes naturels. L'un qui n'a aucun rapport avec l'activité humaine, qui est ce volcan qui se réveille, qui était très impressionnant, mais qui donne quand même une certaine forme d'humilité face à la nature, qu'on a vite fait d'oublier. Et puis l'autre qui est très clairement lié au réchauffement climatique, et là l'activité humaine est clairement responsable et qui malheureusement n'a aucun impact sur nos politiques. Enfin, on continue de réchauffer le climat, on ne respecte pas les accords de Paris, là-dessus c'est un échec total.
Alors Fabrice Eppelbois, sur internet en 2010, il y avait une petite chose qui faisait le buzz.
Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. Tes petits poignets d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras.
Vous connaissez ou pas?
Ah bah oui.
C'est quoi?
C'est René Lataupe.
C'est René Lataupe.
Grand moment de l'histoire musicale française.
Et grand moment d'Internet.
Et grand moment d'Internet, oui.
Parce que je ne sais plus combien de fois ça a été vu, des millions de fois aussi.
Un truc colossal.
En tout cas, ça fait aussi douter des contenus.
Oui, les contenus, honnêtement, si demain vous voulez faire un disque d'or, appelez-moi, j'ai tout le carnet d'adresse qu'il vous faut pour faire un disque d'or dans les 24 heures.
Un disque d'or de ce genre de choses?
Sur 10 heures, oui, sans problème. Ça aussi, ça se fake. Tout se fake. Ça fait partie de l'astroturfing.
Bon, faudra que je vous réinvite, Fabrice Eppelbois. En 2010, c'est ce qu'on a appelé le Cablegate. Le site Wikileaks diffusait plus de 250 000 dépêches diplomatiques américaines qui racontaient sans aucun filtre 50 ans de relations diplomatiques des États-Unis.
Tout sourire ce jour-là, Hillary Clinton et Ban Ki-moon. Mais le secrétaire général des Nations Unies ignore que celle avec qui il pose en photo a donné l'ordre en 2009 de l'espionner, lui, ainsi que les diplomates de l'ONU. Passeport, carte de crédit, mot de passe internet, empreinte digitale, ADN, les diplomates américains doivent recueillir un maximum d'informations, comme des agents secrets. C'est l'une des révélations du site Wikileaks, l'envers de la diplomatie américaine. Au total, 250 000 notes diplomatiques confidentielles divulguées. Mise à jour aussi, le jugement peu flatteur des Américains sur certains dirigeants. Nicolas Sarkozy est considéré comme susceptible et autoritaire. La chancelière allemande Angela Merkel aurait peur du risque et manquerait d'imagination. Silvio Berlusconi, lui, serait irresponsable et inefficace, fatigué par ses longues nuits sans sommeil. Le Libyen Muammar Kadhafi ne pourrait pas se passer de son infirmière ukrainienne à la poitrine voluptueuse. Quant au Premier ministre russe Vladimir Poutine, il est perçu comme un mâle dominant. Aujourd'hui, toutes les capitales occidentales ont réagi de façon très diplomatique et continuent de soutenir les États-Unis. Difficile encore d'évaluer les conséquences de ce grand déballage.
Fabrice Eppelmoin, vous avez lu évidemment tout ça.
Oh, pas les 250 000 câbles, non. Mais j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Wikileaks quelques années auparavant, lors d'une toute autre investigation qui a aucun rapport avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, je connaissais bien Wikileaks. Et quand le Cablegate s'est sorti, j'ai tout de suite vu, comme beaucoup de monde, hein, que ça allait y aller avoir un avant, un après. Et typiquement, aujourd'hui, il y a une très grande partie des grandes affaires de journalisme qui sont liées à cette mode qu'a introduit Wikileaks, qui est de prendre quelque chose de secret et de le rendre public. La théorie de Wikileaks, à la base, c'est que toute organisation possède un secret qu'elle utilise au détriment de ceux qui ne l'ont pas et qui sont à l'extérieur de l'organisation. C'est valable aussi bien pour une entreprise, qu'un État, qu'une mafia, que tout un tas d'organisations. Et le mode d'action politique que propose Wikileaks, c'est de rendre ces secrets publics pour désactiver les organisations. La première grande expérimentation qu'il en a faite, c'est la démocratie américaine. Donc il a exposé les dessous salles de la démocratie américaine, qui a permis de révéler tout un tas de pratiques qui n'avaient absolument rien de démocratique, de façon à ce que nous puissions ouvrir les yeux sur la réalité de ce monde. Et par la suite, non seulement Wikileaks, mais une quantité d'autres ont fait le même genre de choses sur les mêmes modalités opératoires. Et aujourd'hui, toutes les grandes investigations, notamment, je pense à les investigations sur l'évasion ou la fraude fiscale, ou plus récemment les Football Leaks, tout ça procède d'une mode déclenchée par Wikileaks, qui est de détactiver des organisations en rendant public leurs petits secrets.
Alors vous parlez, Fabrice Eppelmoin, d'ouvrir les yeux sur les réalités du monde. Je voulais vous citer un extrait d'un article publié dans Le Monde, daté de mercredi 30 janvier. C'est une interview de Nick Clegg, responsable des affaires publiques de Facebook, qui dit, alors vous allez me trouver d'une naïveté crasse, mais alors moi ça m'a scotché. Nous sommes au milieu d'une révolution industrielle. L'utilisation des données est la principale force de réorganisation de la société aujourd'hui, que ce soit dans la conception des voitures, la surveillance de l'agriculture, la révolution de la santé, l'éducation, la manière dont nous nous connectons.
Et j'ajouterais la politique. Mais oui, il a tout à fait raison. C'est étonnamment un très bon interview qu'a fait Le Monde, qui montre la réalité de Facebook. Soulignons que cet individu, avant d'être le numéro 3 de Facebook en charge des affaires institutionnelles, avait, je ne sais plus très bien quel rôle au sein de la politique anglaise, mais c'est un politicien. Et Facebook, comme Google, comme beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur bancaire, ont une politique de ce qu'on appelle le revolving door, qui consiste à faire des allers-retours entre le monde politique et le monde de l'entreprise. Et c'est l'antichambre de la corruption généralisée que les GAFA ont répandu en grande partie sur l'Europe et qui font qu'aujourd'hui l'Europe a, et la France en particulier, a perdu une forme de souveraineté. On a perdu, on en parlait tout à l'heure, la souveraineté sur le renseignement à travers les concessions qu'on a fait à Palantir, et on n'avait pas vraiment le choix si on voulait continuer sur le chemin des technologies. Et on a perdu la souveraineté, c'est infiniment plus grave, ça nous ramène aux gilets jaunes, sur le dialogue social. Le dialogue social, l'espace de discussion des Français, aujourd'hui c'est Facebook. Il est sous souveraineté américaine, il est régi par les lois américaines, qui fait que très concrètement, vous pouvez parfaitement être raciste, hein, mais il est hors de question de montrer un sein. Ce qui est radicalement différent de la France, où il n'y a aucun problème pour montrer un sein, mais que, par contre, vous n'avez pas le droit d'être raciste. Et du coup, cette dichotomie entre l'espace de débat public qui, depuis 10, 15 ans en France, et Facebook, pour l'écrasante partie de la population qui, de toute façon, ne trouve pas ses idées dans les médias, qui, de toute façon, n'ont pas le droit d'en parler, et la réalité de ce qui s'imagine être l'espace public de discussion des hommes politiques, crée un fossé qui est gigantesque, d'où le côté un peu dérisoire du grand débat national qu'on fait dans les gymnases, dans les salles municipales, quand on s'aperçoit que les politiques n'en sont même pas à découvrir que ce grand débat national, il a lieu sur Facebook depuis maintenant 15 ans.
Merci Fabrice Eppelmoin d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci.
On a de quoi potasser pendant des jours et des jours à vous écouter. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Anne de Lavaux, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Mathias Alléon. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Tout de suite après le flash, ce sera Vincent Josse et son grand atelier à la semaine prochaine.